6h sur Europe 1.
Nous nous battons comme des diables et nous allons aller au Capitole et nous allons essayer de donner aux républicains le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays.
Un extrait du discours de Donald Trump qui a mis le feu aux poudres la nuit dernière à Washington. Des centaines de militants pro-Trump qui envahissent le Capitole dans des scènes d'une extrême violence. Au moins 4 morts. Alors que s'est-il passé? Est-ce que le calme est revenu dans la capitale américaine? Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. En France, les enseignants reçus au ministère de l'Éducation aujourd'hui pour parler de la vaccination, eux aussi veulent faire partie des prioritaires. Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole ce soir. Dans ce journal, la publication aujourd'hui du livre de Camille Kouchner qui révèle les abus sexuels d'Olivier Duhamel sur son frère dans les années 80. Christophe Dettinger, l'ancien boxeur gilet jaune, ne touchera pas la cagnotte en ligne qui avait été mise en place pour le soutenir. Et puis on connaissait Pablo Escobar, le narcotrafiquant, le grand criminel, mais moins le père de famille. Témoignage à la fin de ce journal de son fils Juan Pablo à l'occasion de la sortie d'un livre sur sa relation avec son père.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix et mon invité inattendu qui va vous surprendre encore ce matin. C'est un immense chef d'orchestre qui vient partager avec nous une passion qu'on ne lui connaissait pas, celle du large et de la voile. Bon réveil, bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le monde entier est sous le choc après ces images. La nuit dernière à Washington, dans le Capitole qui abrite le Congrès, une foule de partisans de Donald Trump venus contester le résultat de la présidentielle américaine. Le président élu Joe Biden dénonce une attaque sans précédent contre la démocratie. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Washington. Alors déjà, racontez-nous ces scènes presque chaotiques. Que s'est-il passé?
Oui, ces images invraisemblables, incroyables, qui se sont déroulées à quelques dizaines de mètres de l'endroit où je me trouve, sur la colline du Capitole. Le Congrès, le temple de la démocratie américaine, envahi par des manifestants chauffés à blanc par Donald Trump au début de journée. Une séquence qui restera historique, avec des élus évacués des hémicycles du Congrès, masque à gaz sur le visage, des intrus qui s'emparent d'objets comme le pupitre de Nancy Pelosi, la leader démocrate de la Chambre des représentants. Un homme également portant le drapeau confédéré au sein du bâtiment du Congrès. Des images donc qui marquent cette fin de mandat chaotique de Donald Trump, et les forces de sécurité ont tout de même repris le contrôle du Capitole peu avant 18h ici à Washington.
Alexis, on vient d'apprendre il y a quelques minutes que ces événements ont fait 4 morts.
Oui, 4 morts. Alors on connaissait surtout une femme qui a succombé à ses blessures après avoir été touchée par balle. La police n'a pas révélé son identité. On ne sait même pas non plus d'où provenait la balle. Et d'après le récit du New York Times, elle a été touchée au moment où elle escaladait une corniche dans l'enceinte du Capitole. 3 autres personnes sont également décédées, ce qui porte le bilan à 4. Concernant ces 3 autres personnes, pour l'instant, la police n'a pas donné d'informations complémentaires.
Et maintenant, à l'heure où on vous parle, Alexis, on imagine que le calme est enfin revenu dans les rues de Washington ?
Oui, c'est extrêmement calme, très silencieux. J'ai pu me promener là dans Washington au cours de la dernière heure. Le couvre-feu est en vigueur depuis 6 heures maintenant. Il est minuit ici à Washington. Il n'y a quasiment personne dans les rues. On voit des voitures de police qui patrouillent le long du mall. Le mall, c'est cette longue promenade verte qui fait face au Congrès. Et la nuit s'annonce donc extrêmement calme ici dans la capitale fédérale américaine.
Merci Alexis Guilleux en direct de Washington, envoyé spécial d'Europe 1. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette matinale. On revient largement sur ces événements ce matin.
Et à noter qu'en marge de ces violences, le Sénat repasse sous le giron des démocrates après la défaite des 2 élus républicains dans l'État de Géorgie. Une nouvelle victoire pour Joe Biden qui dispose désormais de tous les leviers du pouvoir.
On retient aussi les mots d'Emmanuel Macron au cœur de la nuit, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron qui dit: ce qui s'est passé à Washington cette nuit n'est pas américain. En France, première conférence de presse de l'année pour Jean Castex ce soir.
Une fois n'est pas coutume, le Premier ministre fera le point sur la situation de l'épidémie et sur la stratégie de vaccination du gouvernement. Hier matin, sur Europe 1, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, souhaitait que les professeurs fassent partie des publics prioritaires. Avis partagé par les principaux concernés qui demandent plus d'informations sur le calendrier, notamment Sophie Vénétité et la secrétaire générale adjointe du SNES, le syndicat majoritaire du secondaire.
Le ministre a dit que ça serait au plus tard au mois de mars. Voilà, il nous faut des précisions. Ça nous semble être une bonne chose que les enseignants soient vaccinés rapidement. Il va de soi qu'il faut d'abord vacciner les personnes âgées, puis les personnels soignants. Ça, c'est indispensable. Mais ensuite, il nous semble important que les enseignants soient rapidement vaccinés parce qu'ils sont au contact du public, d'un public nombreux. Donc la vaccination permettrait de les protéger. Mais quelque part, c'est aussi un outil de prévention parce que ça pourrait permettre d'éviter, si l'épidémie dure, de refermer les établissements scolaires, ce qu'on veut à tout prix éviter.
Sophie Vénétité du SNES avec Virginie Riva. Les organisations syndicales seront reçues au ministère de l'Éducation aujourd'hui pour faire un point sur la situation sanitaire dans les établissements.
C'est un livre qui fait beaucoup parler et qui est publié aujourd'hui, La Familia Grande, le livre et les révélations de Camille Kouchner.
Des extraits en avaient été publiés en début de semaine. La fille de Bernard Kouchner raconte comment son beau-père, Olivier Duhamel, a abusé de son frère jumeau dans les années 80 et comment toute la famille a gardé le secret jusqu'à maintenant. Nicolas Caro.
L'histoire est racontée du point de vue de Camille Kouchner, l'enfance d'abord, hors norme, avec un père très absent, occupé à sauver le monde, une mère impressionnante de culture, Evelyne Pizier, la sœur de l'actrice Marie-France Pizier. On est élevé dans le culte de la libération sociale et sexuelle. Et puis, Evelyne quitte Bernard, et voilà le beau-père adoré, intelligent, drôle, beau. Les enfants l'adorent, il est très présent. On passe des vacances dans sa maison de Sanary avec toute la famille et les amis qui forment la Familia Grande. On rigole tout le temps, on s'amuse, on parle politique et rien n'est tabou. Mais un jour, Victor, le frère de Camille, lui révèle que son beau-père vient régulièrement dans sa chambre et qu'il abuse de lui. Ils ont 13-14 ans à l'époque, elle ne sait plus exactement. Camille voudrait parler, mais impossible, à cause du déni d'abord. Tout le monde fait ça, comme dit son beau-père, qu'elle continue à adorer d'ailleurs. Surtout, son frère la supplie de ne jamais rien dire. Mais le poison de la culpabilité la ronge. Un jour, il faut parler, ne serait-ce que pour protéger de nouvelles victimes potentielles. La mère, Evelyne, est informée, mais elle prend fait et cause pour son mari et en veut à ses enfants. L'entourage est au courant maintenant, mais tout le monde se tait, sauf Marie-France Pizier, qui essaie de faire entendre raison à sa sœur, parle et protège ses neveux. Le livre lui est dédié.
Nicolas Caro, le spécialiste littérature d'Europe 1.
Et le silence autour de ces actes d'inceste à l'intérieur des familles, on en parlera tout à l'heure avec mon invité à 6h40, la sociologue Alice Debauche.
Dans l'actualité aussi, Christophe Dettinger, le boxeur gilet jaune, ne touchera pas les 145 000 euros de la cagnotte Litchi qui avait été créé pour le soutenir. Décision hier du tribunal judiciaire de Paris. Les magistrats ont estimé que le but de cette cagnotte était bien de nuire à l'ordre public, Justin Morin.
Dans leur décision, les juges rappellent que le but de la cagnotte était très clair. Il n'était pas de financer les frais d'avocat de Christophe Dettinger, ni de soutenir sa famille. La preuve, au moment de la création de cette cagnotte, son identité n'était pas encore connue. On parlait seulement du boxeur gilet jaune. Il n'avait d'ailleurs même pas encore été interpellé. Cet appel au don poursuit la décision, a donc été motivé par les actes de Christophe Dettinger, à savoir frapper à coups de poing un gendarme mobile et à coups de pied un autre gendarme au sol. Conclusion du tribunal, la cagnotte a initialement pour but de soutenir l'usage de la violence contre les forces de l'ordre et n'est pas conforme à l'ordre public. Les 145 000 euros étaient restés bloqués sur un compte sécurisé jusqu'à aujourd'hui. La plateforme Litchi doit maintenant rembourser tous les participants.
Justin Morin, du service politique d'Europe 1.
Et puis on va terminer ce journal par un témoignage. Il est le fils de l'un des plus grands criminels du siècle dernier, l'un des hommes les plus fantasmés aussi, héros de films et de séries. Juan Pablo Escobar raconte sa relation avec son père sur Europe 1.
Le fils de Pablo Escobar publie aujourd'hui un livre en France, « Ce que mon père ne m'a jamais dit », c'est son titre. Juan Pablo Escobar était l'invité hier soir du 18-20 de Julien Bugier.
Quand j'avais 7 ans,
quand j'avais 7 ans, nous sommes partis en exil au Panama parce que mon père avait ordonné la mort du ministre de la Justice de Colombie, ce qui a donné une guerre sans pitié entre la police et les narcotrafiquants. Et quand nous étions là-bas, au Panama, mon père m'a dit que son métier, c'était d'être un bandit. Même si je n'avais que 7 ans, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est qu'il avait été l'un des plus grands bandits du siècle. Ça, je l'ai intégré au fil des années. Mon père était quelqu'un de très affectueux avec moi. Il me donnait de très bons conseils, paradoxalement, et de l'amour. Mais il ne les appliquait pas en dehors de la maison. Sa vie était pleine de conflits. contradiction sur ce point. J'ai dû rencontrer 150 familles victimes de la violence de mon père. Mais au moins, j'ai pu leur demander pardon personnellement. Heureusement, en Colombie aujourd'hui, les nouvelles générations ne croient plus à la violence.
Voilà le témoignage exceptionnel de Juan Pablo Escobar, le fils donc de Pablo Escobar, au micro européen de Julien Bugier.
Dans le journal de 6h, signé Sophie Echen, il est 6h10.